16h05, vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. On va plonger dans le vif de l'actualité de ce lundi 17 août. Mais on est dans le vif de l'heure de pointe présentement, Max.
Ouais, quelqu'un avait perdu une roue, semble-t-il, plutôt sur le pont. Là, ça, la roue a probablement été récupérée, mais ça a causé des petits problèmes en direction nord. C'était déjà problématique aussi en direction sud, là, actuellement, autant par Duplessis que par Henri IV. Je vous dirais que c'est à peu près à hauteur de la 40 là, que ça ralentit considérablement. Sinon, capitale direction est entre le boulevard de Lormière et Pierre-Bertrand, c'est au rouge. D'ailleurs, l'accès Robert Bourassa, direction nord, à partir de Père-le-Lièvre jusqu'à la bretelle pour aller chercher la capitale est, ben, c'est au ralenti. Capitale ouest, petit ralentissement à hauteur de Laurent, mais c'est pas catastrophique. Et sur la rive sud, 20 ouest, un peu avant route du président Kennedy jusqu'à Taniata au rouge. Et Guillaume Couture, direction ouest vers chemin du fleuve au ralenti également.
Peut-être ajouter qu'il y a une fuite de gaz dans le secteur de Sainte-Foy. L'avenue Chapdelaine dans le secteur, donc, est bloquée à la circulation entre Néré-Tremblay et Maquet le temps du colmatage. Il y a personne qui a été incommodé, mais c'est quand même un petit détour dans le coin.
On regarde l'essentiel des nouvelles, ce qui se passe et ce qui se brasse autour de nous autres et autour de vous autres.
Point de presse un peu plus tôt aujourd'hui pour présenter une entente cadre entre Québec et Terre-Neuve pour ce qui est de Churchill Falls. Il y avait aussi le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui était parce qu'ils ont servi de facilitateur avec quand même 10 milliards d'investissements à l'intérieur de tout ça. Je dis entente cadre parce que ce n'est pas une entente qui est signée, ce n'est pas une entente qui est finalisé. Parmi les informations qui en sont sorties, c'est vraiment l'augmentation de la production d'hydroélectricité qui va faire que de part et d'autre, on va en avoir plus de disponibles.
Dans le fond, cette entente-là, ça va devenir comme l'album de Guns N' Roses qu'on a attendu pendant 25 ans. Ouais, c'est ça.
On espère que non, parce que là, il y a aussi un investissement d'Hydro-Québec, encore une fois, pour être en mesure de construire la nouvelle centrale de Gull Island, mais aussi être capable de transporter l'électricité. Là, vous comprendrez que il y a eu des sorties de part et d'autre parce que, justement, c'est pas signé. Puis, quand il y a eu des questions des journalistes, il y a eu la fameuse question à savoir, bien là, Mme Fréchette, si la CAQ n'est pas réélue, qu'est-ce qui va advenir avec cette entente-là? Et elle a sous-entendu que si le PQ passait, bien, il n'y aurait pas d'entente puis il faudrait recommencer à zéro. Ce à quoi Paul Saint-Pierre Plamondon a répondu sur les médias sociaux en disant que son affirmation était tout simplement une fausseté, que la réalité, c'est que personne n'avait lu l'entente puis que si l'entente est positive pour le Québec, bien, qu'un gouvernement du Parti québécois aurait intérêt à maintenir cette entente-là. A aussi, au passage, souligné que côté transparence, elle en avait manqué et avait jamais hésité à déformer la réalité dans des dossiers importants comme Nordvolt, Saclic ou encore Nemaska. Fait que c'est la joute politique qui se poursuit, alors que la date qui circule pour le déclenchement des élections serait dans 10 jours. Fait que vraisemblablement qu'on va être encore dans ces espèces de marasmes-là pour 10 jours avant qu'on déclenche tout ça.
En même temps, on devrait starter aujourd'hui l'élection. Là. On est déjà en campagne électorale.
En fait, dans ma tête, là, depuis qu'ils sont tous revenus de vacances. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a une question de légalité parce que c'est 33 à 39 jours, je pense, la durée d'une campagne électorale. Fait que si on veut se rendre au 5 octobre, sinon il aurait simplement fallu déclencher une élection anticipée. Là.
J'aime ça de même. Là. C'est parti, puis il n'y a pas de pancarte. Puis, je sais pas.
C'est le fun, le bout de pas de pancarte.
Moi, c'est mon bout préféré.
Le matin des pancartes, c'est pas le fun. Puis il y en a qui traînent tellement longtemps après l'élection. Il y a aussi des questions qui ont été posées à Mark Carney concernant les fameux tarifs qui doivent arriver, qui doivent être appliqués là, à partir du 19 août, un 50 % supplémentaire. En gros, il n'a pas voulu se prononcer en disant que c'était pas le moment d'avoir une négociation en public et qu'il a l'intention, en fait, qu'il prévoit parler à Donald Trump d'ici mercredi, donc la journée d'entrée en vigueur.
On devrait passer un deal avec les gens de la politique. C'est vous montrez pas vos facelettes pendant la campagne électorale, et nous autres, en retour, les gens de radio, on vous montrera pas nos facelettes sur les panneaux d'autoroute.
C'est un bel échange.
Moi, je trouve que oui. C'est du donnant-donnant.
Oui, oui. On s'ennuie de l'époque où il n'y avait pas des faces partout. parlant de ces négociations-là, elles se sont poursuivies pendant toute la fin de semaine. C'est toujours les mêmes enjeux qui achoppent l'automobile, les produits laitiers, l'alcool, l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre. Puis on se prépare au fait que si ça s'applique, ben il y aura des impacts directs, entre autres sur des entreprises au Québec et dans le reste du Canada.
C'est vrai qu'ils font du lait à 6 %
Hey, tu veux que je te parle de ça? Avec plaisir.
Mais c'est de la crème, ça.
C'est ma nouvelle passion.
Ouais. À partir de combien de pourcentage du lait devient de la crème?
Bien, en fait, tu vois, le mélange de crémette à café, c'est 5 %.
Ouais.
Mais c'est mélange lait et crème.
Mais là, du lait à 6%.
Le crème, c'est 10%, je pense. Ouais. Il me semble que c'est 10% crème à café. Puis là, après ça, ça continue à monter.
Y a-tu quelqu'un qui avait demandé du lait plus gras? Ah ouais.
Oui, c'est ça l'affaire. Puis
êtes-vous malade?
C'est parce que depuis la semaine dernière que je vois sur mes médias sociaux que Québon a commencé à offrir sur les tablettes québécoises du lait à 4%. Puis c'est les formats en sac de lait. Fait qu'il faut que t'achètes le 4 litres. Là. T'achètes pas un litre pour goûter pour le fun.
Mais il y a du monde qui va acheter ça.
Il y a des gens qui en faisaient la demande, entre autres, à cause de la cuisine.
Gras à 6 % là, le sac de lait, il devient-tu détrempé comme le sac de frites là, quand tu vas les chercher à la cantine?
Même ça.
C'est la même
ça
affaire.
Ça passe à travers le papier brun.
On le dit souvent que le monde va pas bien. Hein?
Non. Ça, c'est le bout du bout. Là. Moi, on dirait que j'ai un refus global. Le meilleur lait, c'est celui qui est le plus faible.
Moi, j'étais à 0 % mon prix.
Ben,
il est plus froid.
C'est vrai? Ben, c'est ça. Ah, oui, moi aussi.
Ah, moi, ça a toujours été 2.
Ben, écoute, on est dans la même équipe, je pense. Là.
Ben, zéro.
Entre 0 et 2 % je pense qu'on est dans la même équipe.
Je savais même pas que ça existait, du 0 %.
Mais oui, la première fois, tu fais le saut. C'est très aqueux comme texture.
Ben, c'est
aqueux. L'eau. Le lait à 3 % est liquide aussi, hein, en passant.
Oui, mais il est plus, velouté.
Velouté.
Dans la texture.
Moi, c'est juste une question de... Tu sais, le principe de la Coors Light là, que j'ai jamais compris. En veux-tu une froide? Oui, ben, c'est parce que si tu la laisses traîner, sa terrasse toute l'été, elle sera pas froide, ta Coors Light. Elle va juste être froide si tu la mets dans le frigidaire. C'est vrai ou pas vrai?
Oui.
Ils font toute la campagne de pub à nous dire « En veux-tu une froide? » Mais
ça appartient juste à toi. Là,
ben,
pas,
c'est hein? ça. Je veux dire, si je la mets dans le congélateur, elle va geler. Si je la mets dans le frigidaire, elle va être froide. Mais si je la laisse à la table, elle ne sera pas plus froide qu'un autre. Là.
Mon père, il faut qu'il boive ses bières chaudes à ta tablette, parce que sinon, il pogne la hoquette. Hey?
Pour vrai?
Ouais.
Oh, ça doit être drôle quand tu lui sers des bières froides. Là.
Mais il ne boit pas.
Il ne boit pas?
Fait que lui, tu peux lui demander. En veux-tu une froide? Puis il va te dire non.
Lui, non. Ça marche pas, la pub. Pas... Si tout le monde était comme lui, là, ça pourrait pas marcher.
Mais le lait le plus fret, c'est celui qui a le moins de gras.
C'est une question de perception.
Oui, il y a une différence. Non! Non, il est plus froid.
Il sort du frigo à la même température que le 3,25.
Hey, je suis scientifique, moi, là.
Ah oui?
Oh, oui. Tu te souviens-tu de mes théories pendant la pandémie?
C'est quoi le popsicle le plus froid entre celui à l'orange, au raisin puis aux cerises?
Il n'y a pas de différence.
Ah non, pourquoi?
Ben non.
Ben c'est la même consistance.
Ben oui, c'est le même popsicle.
Non, mais c'est logique que lui...
C'est le Coors Light. Le Coors Light est probablement plus froid que les autres.
Non, mais c'est logique que le 0% soit plus frette que le 2.
Moins de gras?
Oui.
Ben il me semble. Moi, je l'ai tout le temps compris de même.
Revenons aux 6 %. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous écrivent pour parler de leurs vaches, eux autres, qui sont à 4,4. Une Jersey, c'est plus vers le 5 %. Fait que tu sais, le lait, naturellement, est dans ces eaux-là.
Puis,
c'est un type de vache.
Ah ouais, hein?
Ouais. Puis quand la situation économique est difficile, ben là, c'est là que le lait devient faible en pourcentage, là, ce qu'on appelle les années de vache maigre.
Les Jersey, Max, là, c'est les espèces de petites brunes claires comme ça, là. Ce petit modèle-là de vache, sont quand même cute. Ben
oui. Les années de vache maigre.
C'est Siltest qui avait commencé en Ontario au début de l'année à rendre ça disponible essentiellement pour répondre aux besoins culinaires de la communauté d'origine sud-asiatique parce qu'eux autres, ils cherchaient des produits plus riches pour cuisiner.
Mais
parce
là,
que c'est mieux pour faire du yogourt maison, du panier, des lassis, du fromage.
On va-tu se mettre à capoter comme avec le poulet halal? Là? On va-tu perdre le contrôle de nous-mêmes?
Probablement qu'il y a 3 personnes qui vont perdre le contrôle de nous-mêmes.
On a encore fait ça pour les immigrants? Fait que là, on va se mettre à la chasse au lait gras, c'est
mais
ça?
Mais semble-t-il qu'en général, pour cuisiner, même pour la pâtisserie, ce serait vraiment mieux?
Bien, il y a quelque chose qui se fait pour la pâtisserie.
L'acheter?
Il appelle ça de la crème.
Oui, mais c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil.
Du lait et de la crème, c'est pas la même
mais
chose.
Mais là, du lait à 6 % ou de la crème à 8 % tabarnane, c'est la même affaire.
C'est de la crème à 10 % puis c'est la crème à café. Les crèmes de cuisson, ça commence à 15 puis à 35 puis c'est pas pareil, là. La crème fouettée, c'est 35 %. On est loin avec le 6. T'as l'air désemparé, Denis. T'essaies de perdre du poids, puis t'as peur d'aimer ça du 6 %. Hein?
Non. Moi, je suis team lait 0 %. Là.
Moi, anyway, j'en bois même plus de lait de vache. Moi, je suis rendu sur le lait d'amande puis sur le lait de soya.
Ah ouais, t'es rendu un petit fancy comme
ça.
Ça
fait longtemps. Mais souvent, ça me coûte moins cher en rabais. C'est moins cher que le lait normal, puis je prends mon lait de soya protéiné en plus.
Dis le gars qui va au dépanneur se chercher 2 Red Bull passer l'après-midi. Ça va être beau, là.
Donc voilà, c'est maintenant disponible. Puis quand tu regardes les ingrédients, parce que j'ai regardé pour le fun ma fameuse crémette à café 5 %, t'as genre 8 ingrédients dedans, alors que celui-là, t'as lait, crème et vitamine D3. C'est tout. Fait que c'est vraiment très simple.
Mais là, on fait ça pour les immigrants.
Non, pour la cuisine!
La cuisine des immigrants.
La cuisine indienne, voyons.
Ben oui, mais c'est comme le poulet halal, là.
C'est un horrible raccourci.
Hein, quand t'apprends là, que tu manges du poulet halal puis t'es même pas au courant, là.
Tu vas-tu faire des vidéos en criant?
Oui.
Tu vas devenir un influencer?
Bon, moi, si on m'apprend qu'on a fait le poulet pour les religions, pas dedans rue, halal.
En cuisine, idéal pour rehausser les desserts, le café, les pâtisseries, les plats mijotés. Pareil que pour le café au lait, c'est extraordinaire.
Bon.
Que tu vas faire mousser puis tout, là? J'ai perdu Denis.
Non, il y a quelqu'un qui nous écrit « Hey, moi, si vous faites des débats de société comme ça, sans politiciens, je change pas de poste cet automne. » Nous autres...
On va toujours garder cette formule-là de temps en temps.
Oui. Nous autres, on va tout le temps, comment est-ce qu'ils disent dans les annonces conservatrices, là, dire tout haut ce que vous pensez tout bas. C'est ça qu'on va faire. Il restait-tu des nouvelles?
Oui, il reste des nouvelles. Le PQ qui a recruté Stéphanie Martin du Journal de Québec.
Va être tough à topper, là.
Ouais. Ben, écoute, d'ailleurs, il en pense quoi, les partis politiques, là, pour la prochaine campagne électorale, du lait à 6 %? Le PQ va barrer ça,
oui,
là.
Le PQ va sortir bientôt.
Oui, écoute,
là.
Ça vient des étranges. Là, on ne se laissera pas piler sur le dos pour faire notre beau pays, là.
Mon Dieu, que c'est
ça va faire, là. Hey, moi, si je me lance en politique, j'interdis ça, le lait à 6 %, là.
Tout ça parce que je trouvais ça bizarre qu'il y ait du lait à 6 %, puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre dans des
dédales de société. Tu trouves ça bizarre parce que ça vient d'ailleurs?
Non!
Bon.
Une autre.
Tu pensais qu'il y avait rien que Pinchot qui était raciste dans ce show-là? Tabouaille.
Trouve ça bizarre.
Hey. Oh! Bande d'intolérants.
Vous êtes lourd. Donc, Stéphanie Martin...
Moi, si un moment je me ramasse poignée pour acheter du lait à 6 % si je le fais bouillir...
Journal de Québec qui représentera le PQ dans Vanier-les-Rivières du côté de Québec. Hey, vous souvenez-vous de la saga de l'école à Lévis, que quand on a commencé des rénovations, il a fallu qu'on la ferme puis qu'on mette les enfants dans d'autres écoles. C'était l'école Clair-Soleil. Il se passe la même chose à l'école Saint-Fidèle à Limoilou.
Ben oui.
Ils ont commencé des travaux. On est à 11 jours de la rentrée, puis on s'est rendu compte en refaisant les travaux de maçonnerie qu'il y avait une fissure qui touchait des poutres et des colonnes du bâtiment. Fait qu'on replace les enfants puis dans des locaux d'une école qui est à proximité, qui n'est pas très loin. Mais vous rendez-vous compte à quel point qu'ici, on a des problèmes. On s'en rend juste compte quand on fait des travaux de surface puis on est comme « Ah, oh, crap! »
Rendu là, on pourrait peut-être en profiter pour faire le grand tour. Là.
J'ai peur.
Ben là, c'est parce que si à chaque fois qu'on fait des travaux, on se rend compte que c'est pire que ce qu'on pensait.
Ça se peut qu'il n'y ait pas d'école pendant 3 ans.
Ah non, ben c'est beau. Faites pas ça à l'école de mes enfants, c'est le temps qu'ils retournent. Ça va faire.
En terminant, Pornhub qui va verser 120 millions de dollars à des victimes de pornographie juvénile aux États-Unis, c'est quand même capoté. Il a fallu que ça passe par la voie des tribunaux. C'est en 2021 qu'on a commencé des poursuites en Alabama puis en Californie parce que la compagnie MindGeek, elle, mettait des vidéos en ligne sur son site Pornhub. Elle s'appelle plus de même maintenant.
Mais ça, c'est la compagnie montréalaise. Je veux dire, elle a changé de nom 2-3 fois.
Ouais, exact. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait du contenu pédopornographique qui était là, qu'on chargeait les gens pour consommer ce contenu-là. Fait qu'en plus de l'avoir téléchargé, de l'avoir mis en ligne, on facturait des gens. Il y avait entre autres une vidéo qui avait fait jaser. C'était un flow de 12 ans. Puis ça avait été vendu en téléchargement entre 5 et 20 $. Fait que là, c'est pas terminé comme processus. Là. Il y a un tribunal qui doit finaliser les ententes de ce recours collectif-là. Mais 120 millions de $, puis on sait pas combien de victimes seront dédommagées.
Ça vous tente-tu de venir nous rejoindre jeudi soir pour le match Boulevard des Capitales? Allez voir s'élancer comme une gazelle au monticule. Notre Max Larouche national.
Oui.
Vas-tu mettre des pantalons de baseball?
J'en ai.
Ouais.
Oh non, c'est pas vrai.
T'es offendu.
Ouais. Oui, pour vrai, oui. Hein? Je les aimais en plus. Je me trouvais beau dedans.
Puis qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la split au karaoké? Puis,
Ben, je sais pas. À un moment donné, j'ai juste vu qu'au niveau de la fourche, ça avait fourché.
Des choses qui arrivent.
Fait que j'ai dû les jeter à contre-cœur.
C'est ça qui arrive quand on prend trop de lait à 6 %, là. Mais ce sera Max Larouche qui va faire le lancer protocolaire. Pas nécessairement que ce soit un argument de vente, là, je vous le dis. Factuellement, Max Larouche va faire le lancer.
Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup de curieux.
Ouais.
Ben, les gens veulent voir là, comment je vais performer.
Oui, ben d'ailleurs, écoute, j'écoutais RDS hier, puis il y avait comme un débat table ronde, là, savoir comment Max Larouche va performer
ben non, mais
au Stade Canac.
Avoue qu'on a hâte de voir si je vais me rendre.
C'est beaucoup ben, moi, ça j'ai... chaque année, hein?
Ben oui. Ouais. Marceau, l'année passée, c'est parce que lui, il a joué bien gros, qu'il allait se rendre, puis qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je le sais qu'il y a quand même de bonnes chances que j'aille l'air fou, là. Fait que dans ce temps-là, je peux juste surperformer par rapport aux attentes.
Puis Marceau a un orgueil de mâle alpha qui fait en sorte qu'il se serait défendu de pas atteindre le monticule.
Ben, c'est ça qui est arrivé.
Toi, t'es pas dans cette catégorie.
Mais c'est ça qui est arrivé, parce que là, il a dit non, mais c'est parce que Ça a eu l'air que je le pogne pas, mais c'est parce que dans le fond, c'est le catcher qui l'a pas attrapé, il me l'a dit.
Tabarnouche, les conservateurs, ils ont tout le temps plein de défaites. Tabarnouche.
Moi, je vous le dis, ça se peut, je me rende pas, mais ça se peut, je me rende aussi. Fait que pour le savoir.
C'est possible, faut être là.
En tout cas, nous autres, on va se rendre au stade. Ça, c'est sûr et certain. Puis on vous invite à être des nôtres, d'autant plus qu'ils annoncent beau mur à mur à partir de jeudi matin jusqu'à vendredi soir. C'est du soleil, c'est du temps dégagé. Fait que c'est l'idéal pour le baseball. Vous le savez, le stade municipal se remplit bien et se remplit vite. Fait que soyez des nôtres, jeudi soir, c'est les Miners de Sussex County qui seront les visiteurs. On a deux billets à vous attribuer et à vous donner dans la zone Kepler. C'est quoi la zone Kepler? Ben, si je vous dis que vous avez 3 consommations par personne et le popcorn à volonté, ça vous donne le goût de créer une ambiance de feu. Et je vous comprends. En plus, les jeudis au Capital, c'est des soirées gin à 50%. Selon le calcul de Max, ça veut dire que tu peux prendre un verre de gin dans chaque main et ça te coûte seulement un drink. Vous pouvez faire pareil ou être plus responsable, mais dans un cas comme dans l'autre, on vous attend. CapitalDeQuébec.com pour acheter vos billets. Capital avec un S de Québec.com. J'ai 2 billets pour la zone Kepler à vous remettre au 418-971-1021. La question est la suivante. Qui sera le lanceur protocolaire invité spécial dans le cadre du match Boulevard? Encore une fois, on joue à balle donnée. 418-971-1021. N'oubliez pas votre numéro de téléphone. N'oubliez pas votre nom, votre prénom. Bonne chance! Gravel. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Ben oui, il y a des annonces demain matin aux environs de 7h30 dans le show de Marceau. Je vais me brancher pour écouter ça avec vous autres.
Parce que t'es pas au courant de rien.
Je suis pas au courant de rien.
Moi non plus.
Non. Malgré le fait qu'on me traite de menteur, moi, je suis pas au courant de rien. Je suis pas dans les initiés.
Véro.
Véro a été au courant de tout. Elle a fait partie des...
grands décideurs.
Eh oui.
Ce qu'on appelle. Juste lire mes courriels.
Elle fait partie de la caste supérieure de Leclerc Communication. Oui, 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 oui.
Les apparatchiks.
Oui. Absolument, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est beau, hein? Tu t'habilles maintenant aux couleurs de week-end?
Ben, des fois, c'est
beau. On a remarqué. Non, c'est correct, mais c'est ça. C'est ça qui arrive. Fait que demain, 7h30, des annonces, probablement des bonnes nouvelles.
Je m'en vais au week-end, 100% du temps.
100% du temps?
Oui, c'est pour ça la robe jaune.
Bon. Ben, voyons, tu vas
t'ennuyer. À tout gâcher l'annonce.
Ben oui, tu vas t'ennuyer de nous autres.
Tu penses?
Qui va te remplacer dans le retour, là?
Max.
Ben là, j'en ai déjà assez ses épaules.
Puis en plus, Max, à partir, je veux dire, pour un an, a déjà un rôle connexe.
Ah
là.
Oui?
Ouais.
T'es pas au courant.
Qu'on me dit, ouais. Ouais. Vas-tu parler de mes deux filles, moi, là?
Peut-être.
C'est ça l'annonce? Mm-hmm. OK. Bon, ouais. C'est des gens qui veulent venir faire de la radio l'après-midi. Venez-vous-en, on va être une belle gang.
On va avoir du fun.
Vous avez l'air content.
Moi, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de changement dans le retour, mais là, je commence à me poser des questions. Hein.
Ben, soyez là demain, 7h30, pour tout savoir.
C'est vrai que normalement, quand les changements nous concernent...
T'es le dernier à savoir.
On est les derniers informés.
Oh.
Fait qu'en étant au courant de rien... En tout cas, on verra. Demain matin, 7h30, soyez-y, mesdames, messieurs. Et à 7h55, ben, on sera en mesure d'en jaser ensemble, si c'est des bonnes nouvelles. Dans le cadre du pit stop qui a repris du service dans les dernières semaines. Comment ça se passe sur nos routes, Maxime?
Pas top shape, la 20 ouest comme c'est le cas depuis des semaines et des semaines, très compliqué. En ce moment, je vous dirais que c'est un ralentissement qui commence un peu passer Monseigneur Bourget jusqu'à Taniata. Sinon, ben Guillaume Couture aussi, là, direction ouest vers Chemin du Fleuve, c'est quand même pas mal au rouge. L'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, très très compliqué. Quand t'arrives par Duplessis, en fait, ça commence à ralentir hauteur de la 40, puis en fait dans la bretelle aussi de la 40 est vers Duplessis Sud, là, il y a un bon ralentissement qui se fait déjà sentir. Puis en Ricard Sud, ça remonte quasiment en ce moment jusqu'à Wilfrid Hamel. Robert Bourassa, direction nord, à partir de Charest jusqu'à la capitale, c'est au rouge. La capitale directement, direction est, entre le boulevard Masson et Pierre Bertrand au ralenti. Et que vois-je ici? Ah ben c'est super, il y a un avertissement, mais quand tu cliques dessus, ça te dit pas qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est donc hauteur Robert Bourassa, direction sud. Robert Bourassa sud, hauteur de la capitale, qui aurait eu un véhicule lourd en panne, mais de ce que je comprends, ce serait peut-être terminé. Là. Fait que voilà.
Si je perds mes deux filles l'après-midi, bon, parce que Véro s'en va faire de la vraie radio à week-end et que Audrey s'en va accoucher, c'est quoi, là? Faut-tu que je me reparte un party de saucisses l'après-midi comme il y a un party de saucisses le matin à Boulevard? Là? Juste des gars partout tout le temps?
Ben non.
C'est pas ça?
Ben non.
Tu pars pas?
Arrête.
Là, je sais que tu peux pas te passer de moi. Je savais.
Ils veulent pas.
Je savais. Ils veulent pas.
Comme laisse-les pas tout seuls.
Vous savez, on est dans ce temps de l'année où maintenant il y a une nouvelle tradition, c'est de parler des milliers de professeurs manquants dans le réseau scolaire ici au Québec. Vous savez qu'ailleurs, on a eu le même genre de problème, puis on est en train de tester des projets pilotes pour essayer de remédier à la situation. Ce qui m'amène à vous poser la question, vous autres, la semaine d'école de 4 jours, vous seriez pour ou vous seriez contre? C'est ce qu'ils sont en train de faire dans le sud des États-Unis. C'est un projet pilote de 3 ans. C'est la presse qui parlait de ça ce matin. Et c'est dans le secteur de Patagonia, entre autres. Patagonia, c'est une petite ville à 1 heure au sud de Tucson qui a adopté en 2024 la semaine de 4 jours pour un projet pilote de 3 ans. Puis c'est pas la seule municipalité dans le sud des États-Unis. Ils sont plusieurs à avoir fait. Bien, le point est le suivant. Puis au début, je trouvais ça cave. Puis plus je lisais, plus je me disais, « Hey, je pense que je serais pour ça, moi, la semaine de 4 jours. » Le point, c'est de dire, « T'as un rendez-vous à prendre chez le médecin, tu manques pas de l'école. T'as un rendez-vous à prendre chez le dentiste, tu manques pas d'école. »
Mais tout le monde va prendre ses rendez-vous la même journée.
C'est ça.
Les enseignants et les parents d'élèves peuvent prendre les rendez-vous médicaux sans manquer d'école et tout le monde a plus de temps pour se reposer la fin de semaine. Ce qu'on explique, c'est que dépendamment des écoles, il y en a qui ont pris le lundi puis il y en a qui ont pris le vendredi. Dans une c'est pas une commission scolaire, mais dans une commission scolaire donnée.
Un centre de service.
Exactement. Il y a un prof d'histoire et d'éducation physique qui, lui, a décidé de plonger. Un gars qui s'appelle Nate Porter. Il dit, semaine de 5 jours, j'embarquais pas. Semaine de 4 jours, j'embarque. Il dit, je réponds au courriel des parents. Je fais ma préparation le vendredi puis j'ai ma fin de semaine de libre. Puis s'il y a des rendez-vous pour mes enfants, je peux les prévoir sans problème le vendredi. Puis tout le monde se mobilise un peu. Tu sais, les musées du secteur ont des journées particulières où ils vont recevoir des enfants ou des jeunes à bas prix pour faire le tour du musée, visite spéciale. Il y avait des centres d'art qui faisaient la même chose.
C'est quoi, ils ont
des communautés sportives.
Parce que, tu sais, mettons, là, je comprends que dans cette école-là, les employés peuvent avoir une semaine de 4 jours, puis les élèves aussi. Mais mettons, là, je sais pas, là, Bozo, là, qui a une job à 5 jours semaine, je suis pas sûr que son employeur va être content de dire, ben là, OK, on va te mettre à 4 jours parce qu'on n'a pas le choix.
Oui, mais il y a de la contrepartie. C'est que là, tu n'as plus de journée de congé pédagogique. OK? Ça, c'est la première chose. C'est tout le temps les mêmes journées. Soit que c'est le vendredi, soit que c'est le lundi, mais là, tu n'as plus un jeudi ou un vendredi out of the blue où ce que tu as des congés. L'autre chose qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a étiré les heures scolaires. Donc, au lieu d'être de 8h à 15h sur 5 jours, c'est maintenant de 7h30 à 16h30 sur 4 jours. Puis on dit que depuis 1 an et demi, 2 ans, les notes, globalement, ont augmenté dans les écoles secondaires où on a tenté l'expérience. Il y en a également qui ont commencé à avoir des jobs avec un peu moins de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a?
Des textos qui rentrent. On a pas mal déjà ça, des semaines de 4 jours dans les écoles au Québec à cause des pédagogiques.
Ben
il y en a
un
autre qui dit, excusez-moi, là, mais fuck, j'ai 3 ados de 17 à 14 ans, puis les semaines de 5 jours sont tellement rares.
Puis en même temps, dans une ville de fonctionnaires où tu as déjà tellement de gens qui sont à 4 jours ou 3 jours en bureau, puis que le restant du temps sont à la maison. Je sais pas. Moi, au début, j'étais comme sceptique. Je regardais ça. Puis, plus j'y pensais, plus je me disais, ouais, j'embarque, moi, là-dedans.
Mais primaire, c'est peut-être plus compliqué à cause des parents, mais secondaire, t'es capable de garder tout seul.
C'est
là,
ça,
comme
là.
Jeune.
Rendu c'est ça. Secondaire 1, secondaire 2, normalement, toi, tu vas travailler, puis ton ado, il s'organise.
Déjà qu'il y en a, il y a des parents qui trouvent que la période estivale est très longue. Il y en a qui commenceraient l'école pas mal plus tôt que la fin du mois d'août puis le début septembre. Hein?
Un autre effet que je lisais, c'est sur le décrochage, possiblement, parce qu'en laissant une journée de lousse entre le secondaire 1 et le secondaire 5, tu sais, je te parlais d'un emploi mm-hmm. ou d'un sideline, mais juste aussi pour la façon de gérer son horaire, ses travaux, puis ainsi de suite, de rajouter une journée de lousse supplémentaire, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont mieux capables de gérer. On sait que c'est rendu important là, pour les woke, là, de gérer ta vie sociale, puis tout ça. Y a-tu des woke dans le sud des États-Unis?
Ils doivent être peu nombreux, mais ils doivent en avoir une couple.
Ils doivent en avoir quelques-uns. Les élèves sont déjà fatigués, rendus à la cinquième période à 14h15. Il faut faire du travail léger. Sûr. Imagine rendu à 16h.
C'est une autre affaire, ça, la concentration des kids.
Si tu as 3 jours pour te reposer, ouais, j'imagine que tu es capable de plus te concentrer un peu.
Ben non?
Non,
ça marche pas de même. Puis c'est pas 3 jours pour se reposer, là, c'est 3 jours pour niaiser avec tes chums.
En tout cas, à date, eux autres, ils voient des effets positifs, ça a de l'air, autant au niveau des notes qu'au niveau du reste. Hey, dans l'actualité, il est 16h36. L'actrice Hayden Panettiere, c'est une overdose? Finalement, c'est pas mal confirmé là, qu'on s'enligne là.
C'est pas confirmé qu'on s'enligne là, mais il y a plusieurs pistes. Hayden Panettiere, c'est un nom que vous avez déjà vu à la télé. Belle jeune femme blonde. Elle a été la vedette de la série Heroes. C'était la fameuse cheerleader. Il fallait la sauver pour sauver le monde.
Elle faisait-tu encore beaucoup d'acting? Elle faisait des voix de jeux vidéo un peu?
Elle en a fait dans des films, dans des séries. On la voyait encore un peu. Disons que sa grosse période a changé. Puis elle dit qu'à un moment donné, elle avait parlé publiquement qu'elle avait vécu un postpartum suite à sa grossesse puis que suite à ça, elle a perdu énormément de contrats. Mm-hmm. Par contre, c'est aussi une fille qui avait des problèmes de drogue, de médication, d'alcool. Elle en a déjà parlé publiquement.
Ça pourrait-tu finir comme l'histoire de Matthew Perry, l'acteur de Friends? Est-ce qu'on pourrait trouver des gens autour?
Ça va dépendre.
Qui ont peut-être profité de ces problèmes de consommation?
Ça pourrait arriver.
On n'est pas rendu là encore.
Parce que dans le fond, en gros, l'histoire, c'est que hier, les paramédics ont été appelés chez elle à sa résidence de la Caroline du Sud, puis ils l'ont retrouvée en arrêt cardiaque, ont tenté des manœuvres de réanimation. Son décès a été constaté sur place. Il y a aujourd'hui une parcelle de l'autopsie qui a été rendue publique en disant qu'il n'y avait pas de trauma, il n'y avait pas de blessure sur elle. Fait que c'est à partir de là que les spéculations sont arrivées que ça pourrait être une overdose, particulièrement à cause d'un appel au 911 où la paramédic semble sous-entendre que c'est effectivement le cas, fait que ça reste à voir. Elle n'avait plus la garde de son enfant depuis quelques années. Ouais. Pantoute, c'est une entente qu'elle avait eue avec son ex, qui est un boxeur ukrainien. Puis là, actuellement, il y a un tas de témoignages qui sortent dans les médias d'actrices et d'acteurs qui ont travaillé avec elle. Puis le message semble être pas mal tout le même, tu sais. Ça a été un parcours difficile pour cette jeune femme-là qui a été adulée. Elle aurait eu 37 ans un vendredi.
Hey, c'est jeune en battance, mourir d'un overdose, laisser un enfant derrière, même si t'en as plus la garde. Je veux dire, tu restes toujours bien mère de cet enfant-là. Ouais. Mais elle vient d'écrire sa biographie. D'ailleurs, c'est jeune pour écrire une biographie, je trouve, là, à 35-36 ans.
C'est souvent, quand tu veux te remettre un peu sur la map suite à des problèmes, tu vas te servir de ça pour montrer patte blanche, pour dire que tu vas mieux, par exemple.
Mais elle a dénoncé beaucoup le fait des... comment est-ce qu'on appelle ça? Les child actors?
Oui, que leur entourage les pousse à l'extrême, les pousse à l'excès, quitte à parfois leur donner des petits boosts qui les rendent peut-être dépendants. Ça, c'est ses allégations à elle. Ce n'est pas des éléments qui ont été prouvés. Son frère était décédé d'un problème cardiaque il y a quelques années. Il disait que ça avait été dur pour elle, qu'il avait de la difficulté à vivre avec ce décès-là.
C'est incroyable, pareil, parce que ça me faisait réfléchir sur les gens qui sont capables de passer à travers des épreuves, hors du commun, puis qui trouvent toujours la résilience de passer à travers tout. Et je vous ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui du documentaire sur le drummer de Blink-182.
Louder Than Fear, Travis Barker.
Il y a un moment clé dans ce documentaire-là où on raconte quand l'avion s'écrase.
Explose, en fait.
Ils sont quatre dedans. L'avion s'écrase, puis explose. Parce que pendant les 10 secondes avant que l'avion explose, il y a deux personnes qui ont réussi à sortir de là vivants. Amochés, mais vivants. Tu as Travis Barker, puis tu as son chum, DJ AM.
Adam Goldstein.
DJ AM. Les deux sont survivants. Ils perdent leurs deux meilleurs amis, un bodyguard, puis celui qui était l'assistant personnel de Barker. C'était son meilleur chum. Ils étaient tout le temps ensemble. Les deux sont décédés parce que 10 secondes après que l'avion se soit écrasé, ça a explosé. Barker est super magané. brûlé au troisième degré sur 65 % de son corps. D'ailleurs, c'est des images qu'on voit dans le documentaire. Là, tu vois les deux gars en feu qui essayent de s'éteindre en avant de l'avion en flammes.
Qu'est-ce qui a filmé ça?
C'est les policiers qui arrivent sur place avec leurs caméras.
Dans les véhicules.
C'est les caméras de surveillance. Puis t'entends un Travis Barker complètement en larmes puis en hystérie dire « Amenez-nous de l'aide, amenez-nous de l'aide, amenez-nous de l'aide. » DJAM est sorti de l'hôpital en l'espace de quelques semaines et a repris l'avion dans le temps de le dire. Pendant ce temps-là, Barker reste à l'hôpital, puis lui, il est magané.
Puis lui a, à ce moment-là, une dépendance aux antidouleurs tellement grande que peu importe ce que les médecins lui donnent au moment des chirurgies, il sent encore toute la douleur parce que son corps est rendu habitué.
Le DJ, ça.
Non, ça, c'est Travis Barker.
Okay, ouais.
Travis Barker est à l'hôpital, il est à moitié mort. Ils sont pas capables de le geler pour pas qu'il sente la douleur. Puis il pèle la peau brûlée parce qu'il faut qu'il l'enlève au complet. Imagine-toi comment ça doit faire mal. Mais tout ce temps-là, lui s'accroche à la vie, même si ça a été difficile. À un moment donné, il a demandé à un de ses chums, il disait « Hey, je vais te payer le montant que ça prend.
Achève-moi.
Va me chercher un gun.
Ouais.
Va me chercher un gun, je suis plus capable. » Il a trouvé ça dur, mais il est passé à travers. Ça a été très long. Pendant ce temps-là, l'autre qui a survécu...
DJM, qui était sobre depuis une dizaine d'années à peu près.
Lui, il est retombé. Il est retombé dans la consommation et à peine un an plus tard, il a été retrouvé mort suite à une overdose. Le gars survit à un écrasement d'avion. Puis au lieu de voir ça comme un signe de la vie, de dire « tu dois continuer » puis tout ça, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de misère avec ce qu'on appelle le « survivor's guilt
»,
la coupable des gens qui survivent à une tragédie. Pourquoi mon chum est mort puis que moi, je suis pas mort? Je me sens comme un intrus, puis ainsi de suite. Puis c'est dans ce contexte-là qu'il aurait recommencé à consommer. Mais tu sais, deux gars, deux bros, deux frères qui ont fait de la musique ensemble pendant des années et des années, il y en a un qui s'est laissé éteindre. Puis il y en a un autre qui s'en est servi comme une bougie d'allumage supplémentaire.
Ouais, pour trouver une qualité de vie puis mettre ses énergies aux bonnes places.
La différence entre les deux, une des différences entre les deux, c'est que dans le cas de DJM, puis il l'avait dit en confidence à Barker, lui, il n'avait pas d'enfant, lui, il n'avait pas de famille. T'sais. Lui, il avait la musique, il avait ses amis, that's it, that's all. Barker, dans sa résilience de rester, pensait à ses enfants, pensait à sa famille, puis ça a joué un peu dans sa réflexion. Mais je regardais ce documentaire-là en fin de semaine, puis je vous le recommande, même si vous ne connaissez pas le gars en tant que musicien, que vous n'écoutez pas ça, des documentaires de musique, tu sais, il y a une leçon de vie émouvante derrière ce documentaire-là que je mets dans une classe à part.
Hey, des années sans prendre l'avion, puis pour pouvoir faire de la tournée avec Blink, il prenait le Queen Mary.
Mais
ça doit être long traversé. Il a recommencé quand il est tombé en amour.
Oui, il a recommencé à prendre l'avion. Ça a été
ça
long,
des années,
mais hein? Il a recommencé, effectivement. Comment ça s'appelle? Louder Than Fear?
Louder Than Fear. Ouais.
Mais tu sais, dans la même fin de semaine, voir des images d'un gars qui passe à travers un paquet d'épreuves, parce que oui, il y a cet écrasement d'avion-là, mais il a perdu sa mère très jeune. Mm-hmm. Puis après ça, tu sais, il y a comme plein de moments dans la vie de ce gars-là où il aurait juste pu dire « Hey, fuck that ». Moi, j'arrête. Les fils se touchent, puis je me perds dans la consommation, puis on me retrouvera mort à un moment donné. C'est jamais arrivé. On dirait qu'il a tout le temps trouvé le gaz ou la motivation. Puis c'est un gars qui a commencé jeune sa carrière de musicien. Là.
Oui. C'est sa mère qui le drillait. Lui, il avait vu Monster des Mopettes jouer du drum, puis il voulait jouer du drum, puis c'est sa mère qui le forçait à pratiquer, puis il était une drill surgeon, puis il dit « Ma mère était capable de faire les mêmes choses que moi à la batterie, mm-hmm. parce qu'elle était toujours à côté de moi, puis dès que je ralentissais, dès que je voulais pas pratiquer, était là, puis elle dit, tu recommences, il faut que tu le réussisses comme il faut. Puis elle a contribué à créer ce gars-là qui est d'une minutie incroyable.
Ouais.
Parce que tu le vois, quand je vous disais le Queen Mary, il traînait son drum, puis il l'installait dans une pièce, puis il pratiquait là-dedans parce qu'il a bien beau être talentueux, c'est la pratique qui l'a amené là. Il n'est pas arrivé de même en claquant des doigts. Là.
Mais ma réflexion par rapport à la jeune actrice qui est peut-être morte d'un overdose en fin de semaine, c'est que, tu sais, on le sait comment ça marche dans la vie, on part pas tout égal. Puis on va s'entendre que globalement, Aiden Panettiere, c'est une fille qui partait avec une couple de kilomètres d'avance ses autres. Là.
En ayant du succès très jeune,
elle était
en
belle,
admirée, absolument.
Elle était sexy,
ouais.
Était adulée à une certaine époque. C'était la jeune actrice la plus en vue dans le temps de la série Heroes.
Tout à fait.
Comment tu peux partir avec autant de longueur d'avance sur bien du monde puis pas être capable de trouver le bonheur, pas capable de trouver une motivation entre 30 et 40 ans de dire « Hey, on va étirer ça un petit peu, ce vie-là. » Il y a quelque chose de triste là-dedans.
Tu sais, quand on est jeune, on aspire à ça. Hein? De la célébrité, de la recherche, le bling, on l'a vu dans les dernières semaines. Ça veut-tu rien dire d'atteindre ce statut-là?
Ah, écoute.
C'est vraiment pas une garantie de bonheur.
Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis regarde, je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive.
Non.
On peut penser à Chester Bennington. On peut penser à Chris Cornell. On peut penser à Scott Whelan. Je comprends que...
Avicii.
Oui, ouais. Avicii. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est disponible sur Netflix sur Avicii également. Plein de gens qui ont toutes, qui font certaines choses mieux que bien d'autres. Tu sais, des talents hors normes, on va appeler ça comme ça. Mais même dans ces circonstances-là, même dans ces situations-là, si t'as pas appris avec eux... Je pense que... Puis c'est peut-être ça la clé avec le gars de Blink-182. Si t'as pas appris à être heureux avec rien, tu seras jamais heureux avec le compte en banque plein. Puis il y a un petit peu de ça derrière un gars comme... Travis Barker de Blink-182. Dave Grohl des Foo Fighters. Je comprends que la biographie, à un moment donné, ça vient tannant. Ah oh ouais, moi, mon chum Paul McCartney. Puis là, on est allé voir mon autre chum.
Moi, quand j'ai fait un enfant dans le dos de ma femme, non, il n'est pas dans la biographie.
Non, ça, on s'est pas rendu là. Il n'y a personne de parfait. Mais tu sais, Dave Grohl, dans ses premières années, faisait pas une maudite scène. Puis il était heureux. Tu sais, lui, juste l'idée de vivre sa passion. Puis le gars de Blink, c'était pareil. Il disait à son père, « Dis-moi, si je suis capable de drummer puis de dormir d'un fond de roulotte le soir, je vais être heureux. Là, j'aspire à rien de plus que ça parce que là-dedans, je trouve mon bonheur. » Mais si tu le trouves pas là-dedans, tu le trouveras pas dans la méga maison des Kardashians. Là. Si tu l'as pas trouvé avant, tu le trouveras pas plus tard. Fait que vous passerez le message au bijoutier de Médusa, là, l'argent rend pas heureux, OK? Il est 16h46. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Gravel! À 100%. Cartouchemultiservice.ca.
La promo Back to School chez Yuzu Sushi, ça commence aujourd'hui et ça se déroule jusqu'au 13 septembre. Un plateau connu et alléchant que les clients attendent. 50$ le prix en restaurant pour 50 morceaux. Aussi simple que ça. 10$ de plus en livraison. Mais c'est parfait pour la famille, c'est parfait pour les amis, c'est parfait pour couper une semaine en deux. C'est parfait pour la commencer du bon pied. On est dans les semaines où c'est un petit peu plus long, hein? On attend impatiemment le retour à l'école chez certaines familles. Ça peut faire du bien. 50 morceaux pour 50$, valables dans tous les restos Yuzu Sushi. Un A+ pour la promo Back to School, yuzusushi.ca.
Faites partie de la fête.
Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
OK.
Bon lundi, bon début de semaine, 16h53. Merci d'être des nôtres. C'est Gravel dans le retour, on est là jusqu'à 18h. Après ça, c'est le chum Marceau qui reprend le crachoir. Et le lundi, c'est avec Marc Bellemare qu'on s'entretient, qu'on jase d'actualité. Soyez-y, mesdames, messieurs. Faut reparler un petit peu d'Éric Duhaime et du Parti conservateur. Il y en a qui vont trouver que je t'achalant, mais en même temps, c'est dur d'ignorer ce qui se passe un peu. Éric Duhaime qui, dans la dernière minute ou les dernières minutes, a posté concernant son vidéo d'en fin de semaine où il y avait du trafic sur le pont La Porte samedi matin, rappelons-le, dans des circonstances très particulières. Il y avait eu une fusillade, il y avait eu des gens qui avaient quitté leur véhicule en panique, puis il y avait une enquête à faire, ce qui faisait en sorte qu'une partie du pont était fermée à la circulation, puis que ça compliquait les déplacements.
Ça a fermé la circulation en direction sud pendant pratiquement 12 heures, puis entre autres, vu que les camions d'un certain poids ne peuvent pas utiliser le pont de Québec, il y avait un détour à faire du côté de Trois-Rivières.
Il y a des gens... Et ils sont nombreux qui ont trouvé que ça avait bien de l'allure de faire une vidéo le lendemain de quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de Québec pour faire la promotion du troisième lien puis dire au monde de voter conservateur. Moi, je fais partie des gens qui étaient dans l'autre camp. Je trouvais que ça manquait un petit peu de jugement. trouvé que ça manquait un petit peu de classe.
J'aurais attendu la semaine d'après.
J'aurais attendu au moins une couple de jours où tu attends qu'il y ait une conversation sur le troisième lien, puis tu dis, regardez ce qui est arrivé en fin de semaine.
On n'est pas à l'abri d'un accident tragique.
Je comprends que c'était dans des circonstances exceptionnelles, mais en même temps, on a des problèmes de trafic redondants à Québec. Tu peux l'amener dans une conversation ou dans un argumentaire. Et il y a des gens qui lui ont reproché que ça manquait de tact puis que ça manquait de classe. Il y a même le Parti québécois qui l'a accusé de faire de la récupération politique, puis ainsi de suite. Vous le savez comment ça marche, la politique. Et Éric Duhaime vient de partager à l'instant sur ses réseaux sociaux ce post suivant. En pleine campagne électorale en 2018, François Legault profitait de la congestion sur le pont Pierre-Laporte pour promouvoir le troisième lien. Aujourd'hui, ces mêmes caquistes s'offusquent de ma vidéo de samedi dernier, alors que le pont était totalement bloqué et l'attente encore plus longue. Non, mais quelle hypocrisie! Si vous en avez soupé de ce type de politique, votez massivement conservateur le 5 octobre.
Ce qui n'a aucun lien.
C'est parce que le point que les gens t'expliquent, Éric, c'est que les circonstances en fin de semaine étaient particulières. Il y a quelqu'un qui a été gravement blessé par balle, puis un gars qu'on ne connaît pas encore son identité qui a créé un Christy de bordel à la grandeur de la province avant d'échanger des coups de feu avec les policiers. La veille, il y a du monde en panique qui ont laissé le char comme d'un film de Spider-Man sur le pont pour partir à la course se cacher en dessous du pont. Ce que le monde te reproche, Éric, les gens qui sont pas d'accord avec ta façon de faire, ce qui te reproche, c'est pas d'avoir dit qu'il y a du trafic à Québec puis que ça prend un troisième lien. C'est les circonstances particulières de quelque chose qui est jamais arrivé depuis la fondation des ponts. François Legault a bien des défauts. Mais quand il s'est plaint du trafic, c'était une journée de trafic. Comme un autre.
C'était opportuniste, oui.
C'était opportuniste, mais c'était pas de mauvais goût.
Ouais.
Tu sais, il y a comme une marge entre les deux.
Il y avait pas un barbecue
deux.
De camion en avant.
Ce que je trouve fatigant, c'est de se défendre en comprenant pas le pourquoi des gens sont mal à l'aise avec ça. Puis on retombe dans le cœur du problème des conservateurs.
Tu regardes les commentaires, c'est sa base qui est bien contente de ce post-là. Les gens qui votent Éric Duhaime puis qui votent conservateur, yes, la réplique, oui, je m'en souviens.
Mais c'est pas ça.
T'as totalement raison. Lâche pas Éric, t'as mon vote. Crée-toi d'un dent.
Je comprends que les gens qui sont présentement en promotion électorale, que ce soit des stations de radio, des animateurs de radio, des gens qui sont des partisans du Parti conservateur, on le sait, Éric Duhaime chie pas de mal. Mais y a-tu moyen de regarder la game dans les estrades puis d'essayer de voir ce qui se fait de bien puis ce qui se fait de moins bien? Moi, je vote pas. Puis encore cette année, je voterai pas. Pourquoi? Parce que y a personne qui s'intéresse à ma réalité d'électeur. À chaque fois, je refais le processus. À chaque fois, je relance ma réflexion. Puis encore une fois cette année, je m'enligne pour rester chez nous, assis sur mes deux mains.
C'est même pas déclenché encore la campagne. Là.
Je peux
pas. Des surprises.
Je ne peux pas, peut-être. Je ne peux pas prendre parti pour qui que ce soit. Je suis pas à la solde de personne. C'est peut-être un vilain défaut à Québec, mais je vais continuer de fausser dans Corral. Ça me dérange pas. On me paye pour dire ce que je pense. Je le filtrerai pas, certain, pour plaire à qui que ce soit. Mais tu peux pas reprocher aux autres de faire de l'opportunisme politique, puis après ça, applaudir l'opportunisme politique. Ça, c'est manquer de conséquences. Tu peux pas reprocher aux autres d'aller chercher des candidats parachutés, puis après ça, ça te dérange pas quand dans ton parti, il y a des candidats parachutés. Tu peux pas reprocher aux autres d'aller chercher des transfuges dans d'autres partis, puis après ça, accueillir toutes les transfuges de l'univers à bras ouverts. Tu peux pas reprocher aux autres d'avoir de la connivence avec les médias, puis après ça, présenter la moitié de ton équipe à Sto, puis c'est tout du monde qui travaille à la même radio. Ou, ce qui fait pour Jean, fait pour Marie. ce qu'il fait pour Christine fait pour Éric. Puis dans le cas qu'on a sous les yeux, puis je comprends que je semble faire partie de la minorité, j'ai pas changé d'idée, ça manquait de classe en fin de semaine. Ça manquait de jugement en fin de semaine.
Puis tu sais, pour arriver à être élu, peu importe le parti, actuellement, avec la quantité d'indécis, il faut que les partis convainquent des gens qui n'auraient pas voté pour eux de voter pour eux.
Si tu ne travailles pas à ça présentement, tu travailles dans le beurre.
Tout parti confondu.
Il y a un électeur sur deux qui n'est pas décidé. C'est une masse de gens impressionnants. Si tu ne travailles pas présentement à aller les chercher, puis tout ce que tu fais, c'est vouloir craquer ta base, de toute façon, il y en a qui vont aller voter pour toi, il y en a qui vont rester assis, c'est toujours comme ça. Mais ce qui est sûr, sûr et certain, c'est que tu ne gagneras pas un vote de plus. Puis ça, ben, ça peut être la clé d'une déception dans une campagne électorale.
On en a parlé avec le Parti québécois. Actuellement, s'il y a une aiguille qui ne bouge pas, c'est l'aiguille de la souveraineté. Mm-hmm. C'est l'aiguille des gens qui veulent un référendum. C'est stable depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a peut-être des gens qui auraient voté PQ puis qu'à cause de ça, vont comme faire « Hey, non, il reste poigné là-dessus. » Fait que c'est à peu près la même chose. Tu parles à ta base, essaie pas de penser que tu vas être capable d'aller séduire à l'extérieur de ça suffisamment pour que les gens sortent aller voter pour ton parti.
Je vous lis quelques commentaires en rafale. Ceux qui sont fâchés de ce vidéo voteront jamais pour le Parti conservateur de toute manière, et c'est pareil de l'autre bord. Fac, ben moi, je pense que le but, c'est justement d'aller chercher des indécis puis les rapprocher le plus possible de ta gang. Puis pour que ces gens-là se sentent en sécurité de voter pour toi, faut qu'ils te trouvent crédible. Puis je pense que dans l'exercice des 24 dernières heures, ben Duhem gagne pas en crédibilité auprès des sceptiques. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui, naturellement, voteraient conservateur, qui se retiennent présentement. Et ça peut faire une différence dans une lutte à trois, comme on voit présentement dans la région de Québec. Je suis conservateur par défaut. Duhem a manqué de jugement samedi matin. Marie-Claude, je voterai conservateur. Le message de fond de Duhem est bon, mais je suis 100% d'accord avec vous. Se servir de la circonstance d'en fin de semaine pour mettre l'emphase là-dessus est affreux. Moi, je trouve que ça a manqué d'empathie de façon générale. Tu sais, c'est comme... C'est comme se servir, mettons, d'un échange... je veux-tu aller là? Tu sais, le lendemain, de ce qui s'est passé à Montréal, là,
ouais.
Le gars du Parti vert qui est sorti là, pour faire le procès à la policière, là,
à sens unique.
Ça manquait de jugement. C'était beaucoup moins délicat et c'était beaucoup plus stupide, mais j'ai le même malaise de fond, moi,
mm-hmm.
à quelqu'un qui profite d'une circonstance tragique pour tout de suite étamper son idée puis son narratif. Tu sais, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris ce matin avec Charlie Kirk. Charlie Kirk, lorsqu'il a été abattu aux États-Unis pendant une conférence, et la gauche et la droite, et les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre, se sont servis de son assassinat.
Absolument.
Pour dire « Regarde, c'est ça qui prouve que la gauche endure plus rien, puis de l'autre bord. Ah, c'est ça qui prouve que la droite est rendue folle. » Non, ça prouve rien. Il y a quelqu'un qui a été tué. Tu peux-tu attendre qu'on finisse de passer à guenilles avant de recommencer à t'ostiner?
Au moins pour le respect des gens autour de lui.
Ben, me semble. C'est la moindre des choses. Duhem semble penser qu'il est contraint de s'abaisser au populisme pour exister dans l'espace public au détriment du conservatisme économique qui pourtant trouverait assurément preneur dans l'électorat. Simon, c'est beaucoup de beaux mots, mais je suis d'accord sur le fond, par exemple. Puis j'ai des fois... Dans sa façon de faire la politique, je trouve que Duhem sous-estime l'intelligence du Québécois moyen. En même temps, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis des dernières années. Sous-estimer l'intelligence de l'électeur moyen, des fois, malheureusement, ça marche.
Quelqu'un qui dit « Vous lisez les textes qui vous arrangent, Duhem était-il au courant de tout? » Honnêtement, au moment où il a fait sa vidéo, s'il n'était pas au courant que quelqu'un s'était fait tirer, puis que quelqu'un... Il y avait assez de détails, selon moi, pour prendre la décision de ne pas faire la vidéo. Là.
Ta job de politicien, c'est de justement non, t'assurer c'est que c'est le moment de le faire aussi.
Exact.
D'avoir les bonnes informations, ça fait partie de ton travail.
Le lendemain matin, on en savait déjà beaucoup sur les circonstances et les détails.
Puis ce qui m'agace beaucoup... Puis là... Tout politicien confondu, là. Votre hosto de popularité, ces réseaux sociaux, là, c'est pas des votes.
Non.
C'est comme être riche au Monopoly. T'es pas riche dans la vraie vie.
Ouais.
Recevoir des likes, ça veut pas dire que c'est des votes nécessairement.
Ouais, mais les politiciens, ils veulent pas te vendre Place du Parc pareil. C'est ça, Place du Parc? La grosse case bleue. Promenade?
Promenade puis Place du Parc. Ouais. On en avait deux.
C'était ça, les deux plus payants au Monopoly de mémoire?
J'ai pas à référence, j'ai pas assez joué à Monopoly.
Ben, tu sais, Monopoly, c'est avec de l'argent de Monopoly.
Oh oui.
Là.
Oh oui.
Les plus gros terrains, là, quand tu les avais, tu voulais pas les vendre parce que tu avais l'impression d'être, d'avoir un certain statut sur le jeu de Monopoly. Mais il y a beaucoup de politiciens qui perdent en crédibilité parce qu'ils veulent pas perdre Place du Parc puis qu'ils veulent pas perdre la promenade. Mm-hmm. Alors que ce serait probablement le meilleur service qui pourrait se rendre. De dire, hey, moi, je travaille pas pour les Gorlots, là. Je travaille pas pour les enragés, je travaille pour vous autres. Bonne chance à tous ceux qui se lancent en politique. Ce sera périlleux, particulièrement dans la région de Québec. Ça va être le fun, par exemple. Moi, j'ai hâte de suivre cette campagne-là avec vous autres. J'ai hâte d'échanger avec vous autres. J'ai hâte de m'ostiner avec vous autres. Mais il y a une chose que vous ne pourrez pas me reprocher, par exemple, c'est d'avoir une couleur politique. J'ai peut-être pas la couleur politique que vous voulez que j'aille. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que j'en ai pas de couleur politique. C'est la seule affaire que je peux vous promettre. 17h05, dans la circulation, Max.
Capitale Est, il y a un accident à hauteur de l'avenue du Beau-Royal qui cause un bon ralentissement, là, qui va commencer à se faire sentir un peu passer le boulevard Neuvial. Après ça, il y a comme un petit break dans le coin de Pierre-Bertrand, puis là, ça reprend, là, c'est bien au rouge dans le coin de l'accident, avenue du Beau-Royal. Sinon, l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, autant par Duplessis que par Henri IV, c'est à peu près à hauteur de la 40 que ça ralentit. Puis la 20 ouest, ben, c'est encore le bordel. À partir d'un peu passer Monseigneur Bourget jusqu'à Taniata du Gros Rouge. Même chose pour ce qui est de boulevard Guillaume Couture, direction ouest vers Chemin du Fleuve.
Hey, on s'arrête quelques instants puis on revient. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour.